pour moi être un homme aujourd'hui.
Un homme, c'est...
Ah, honnêtement, je me suis...
Être un homme pour moi...
C'est une personne qui a un sexe différent des...
C'est être une potentielle agression.
Encore et toujours être en situation de privilège.
Et puis à un moment, ils ont eu trop la liberté.
Quand j'étais petit, c'était Zorro, c'était James Bond.
C'est essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui on est.
C'est d'abord être un humain.
Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme, justement.
À la fois seul et relié.
Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mansplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. Il y a encore peu de temps, je n'avais jamais lu Christine Angot et je ne connaissais donc ni son œuvre, ni son histoire. Et puis récemment, poussé par des proches qui la tiennent pour une écrivaine importante, j'ai lu coup sur coup 4 de ses romans. Et je dois dire que ça a été comme un cataclysme. J'ai été à la fois happé par le style d'Angot et vraiment très secoué par sa façon de décortiquer les mécaniques d'un inceste. Un inceste, ou plutôt son inceste, puisque son propre père l'a violé à de multiples reprises à partir de ses 13 ans. Les 4 romans que j'ai lus, L'inceste, Une semaine de vacances, Un amour impossible et Le voyage dans l'Est, reviennent sur cette histoire, son déroulement, sa genèse. Quant à son premier film, le documentaire Une famille, qui sort dans les salles de cinéma le 20 mars 2024, il traite lui aussi de ce sujet.
J'en ai marre de parler de ça. J'en ai marre que mon travail soit envahi par ça. Parce que ça, c'est moi, à la très mauvaise époque. Là, j'ai 13 ans, donc là, c'est le moment où ça commence. Et je sais la pensée qui va avec.
Depuis l'inceste, depuis 1999, c'est-à-dire plus de 20 ans, Christine Angot, parmi tous les écrivains contemporains, est celle qui a subi le plus grand mépris de la critique littéraire. Mais le plus grand mépris...
J'ai quand même entendu mon ministère nous dire, quand mon père est mort, on m'a quand même dit, de toute façon, il a toujours dit que tu fabulais.
Quand j'étais ado, puis jeune adulte, Christine Angot, pour moi, c'était juste une écrivaine antipathique qui venait vendre ses livres sur certains plateaux de télé et qui s'étonnait de ne pas toujours être bien reçue, alors qu'elle-même ne faisait pas beaucoup d'efforts pour être avenante. On trouve d'ailleurs un passage à ce sujet dans le film Une famille. On la voit quitter le plateau de Tout le monde en parle, l'émission de Thierry Ardisson, après avoir été verbalement rudoyée par l'animateur et ses comparses Laurent Baffy et Linda Hardy.
Son père l'a forcé à manger des clémentines sur son sexe. C'est l'inceste. Hein. Il l'a sodomisé.
Depuis que vous êtes arrivé sur le plateau, vous n'avez pas souri, même ri une seule fois. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous fait rire?
Donc, Le Masque et la Plume sur France Inter. Vous êtes fait traiter de pute quand même. C'est rare dans Le Masque et la Plume, non?
Donc, en lisant ce livre, je sais. Je suis en train de parler, Christine, tu m'écoutes, sinon je te claque.
On vous a dit, Télérama disait, il préfère un autre auteur.
Tout ce qui est faux, ça me fait souffrir.
Ce que je peux dire, c'est qu'en tous les cas, quand on a lu ce bouquin, ça donne pas envie d'être écrivain, ça donne envie d'aller travailler en usine.
J'ai beaucoup regardé Tout le monde en parle. À l'époque, je trouvais ça à la fois intelligent et corrosif. Je trouvais Thierry Ardisson tellement brillant. Mais revoir en 2024 ces images datant d'octobre 2000 m'a évidemment laissé une autre sensation. Celle d'une autrice venue défendre une œuvre difficile, sur un sujet difficile, et finalement contrainte de quitter le plateau parce que le débat qui lui est proposé est absolument indigne.
Ah non, celui-là, il se vend pas, là.
Non, il se vend pas.
Il se vend pas.
Et vous voulez que celui-là se vende?
Non, il se vendra pas.
Et celui-là. Vous êtes étonné?
Non, mais moi, je veux rien.
Vous l'avez dit, je vous ai vu.
Vous n'êtes pas cinquième à l'Iso Express avec ça, hein?
Non, non, là, il se passe rien.
Vous êtes déçu?
Bien sûr, je suis déçu. Écoutez,
il n'y aura peut-être pas de prochain bouquin.
Stop.
Ou encore, tu choisis, c'est toi.
Ben stop. Parce que...
Pourquoi, Christine?
Je crois que vraiment, ça m'amuse pas, quoi.
Mais pourquoi? On s'amusait bien, nous?
Ben moi, non.
Dans ces images, on ressent la profonde solitude de Christine Angot. Et par la même occasion, celle de toutes les victimes d'inceste. C'est-à-dire 10% de la population française, d'après un sondage réalisé par l'Ipsos pour l'association Face à l'inceste en 2020. Oui, 10%. Une personne sur 10, 3 enfants ou 3 ados par classe. L'inceste a été réintroduit dans le code pénal le 15 mars 2016 grâce au combat mené par plusieurs associations. Voilà ce qu'on trouve dans le texte. Je vous en fais une lecture.
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par, premièrement, un ascendant, deuxièmement, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, troisièmement, le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées au 1 et 2, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées au même 1 et 2, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
À de nombreuses reprises, Christine Angot aborde le sujet dans ses livres, souvent de manière très frontale. Ce sont des lectures difficiles, qui souvent soulèvent le cœur. C'est le cas d'Une semaine de vacances, qui décrit de façon très clinique et très détaillée les viols répétés infligés par Pierre Angot à sa fille Christine. Ce père qui ne l'a pas reconnue à la naissance, dont elle a souhaité faire la connaissance une fois ado, et qui très vite lui a imposé ce genre de relation. En assumant pleinement, en tout cas devant elle, en évoquant explicitement son désir, voire son amour pour elle, en développant méthodiquement une culture de l'inceste au sein de cette famille décomposée-recomposée, dont font également partie la mère de Christine, mais aussi la femme que Pierre Angot a épousée ensuite, et les enfants qu'il a eus avec elle. Dans au moins 77% des cas, les coupables d'inceste sont des hommes. C'est ce qu'indique un sondage Ipsos de 2023, qui avance aussi le chiffre de 16% de femmes. Le pourcentage restant correspond à des victimes qui n'ont pas souhaité répondre à la question. Cet homme-là est donc un parmi tant d'autres. Mais ce qui rend l'œuvre de Christine Angot si unique, si prenante, si étouffante, c'est qu'elle montre que, dans son cas, cela s'accompagne d'une forme très assumée de domination intellectuelle. Monsieur Angot est universitaire. Il a beaucoup de connaissances et de culture. Il aime étaler son savoir et reprendre les gens sur une tournure de phrase ou sur une idée qu'il juge inélégante ou inconvenante. C'est quelqu'un de très précis, de très intelligent. Ce n'est pas le monstre avide de chair fraîche, celui qui fait bien souvent office de portrait robot lorsqu'il s'agit de décrire le profil type de l'auteur d'inceste. L'horreur et le malaise ne s'arrêtent même pas lorsque les séquences de viol sont terminées, car ce prédateur-là ne lâche jamais son emprise. Coûte que coûte, il domine, et quand ce n'est pas par les sévices sexuels qu'il inflige, c'est par les mots. Pour la jeune Christine, il est impossible de ne pas se sentir inférieur à lui à tout moment. Dans Une famille, le documentaire, Christine Angot décide de filmer son retour à Strasbourg, cette ville dans laquelle elle a subi tellement d'horreurs. Son père est mort depuis un quart de siècle, mais ce qu'il lui a fait vivre n'a pas disparu pour autant. Alors aujourd'hui, l'écrivaine part à la rencontre des personnes qui l'ont laissé se démener seule contre son prédateur de père. Et cela produit des étincelles bouleversantes. Le film commence de façon très forte, avec l'arrivée d'Angot au domicile de la femme de son père, l'officielle, celle qui lui a donné des enfants dont il était fier, contrairement à la petite Christine, qui a toujours été dissimulée. La voilà obligée de mettre littéralement le pied dans la porte pour parvenir à entrer chez cette femme qui n'a nullement l'intention de lui parler, mais qui finit par ne pas avoir le choix. C'est incroyable ce que fait Angot. Elle veut avoir cette conversation, alors elle l'impose. Elle rompt des décennies de silence en ordonnant à son équipe technique d'entrer dans la maison pour filmer et capter tout ce qui sera dit. Et tant pis si son interlocutrice n'est pas d'accord. Cela débouche sur une longue discussion, au cours de laquelle elle tente de comprendre pourquoi rien n'a été fait pour l'aider, pourquoi le silence a toujours primé, pourquoi personne dans cette famille ne lui a jamais exprimé ni compassion, ni attention. Et on entend des phrases terribles de la part de cette femme à qui personne ne parviendra à enlever ses œillères. Elle dit
« Je ne veux pas savoir ».
Elle dit aussi à Christine Angot, je cite
« Comment tu osais venir chez moi avec ton père alors que vous aviez des relations sexuelles ?»
Devant cette séquence, la rage est immense. Voici ce qu'en dit Christine Angot dans l'interview accordée à Léa Salamé et Nicolas Demorand sur France Inter.
C'est ce qu'on appelle l'inversion des rôles. Voilà. Et c'est typique. Hein. C'est moi qui suis responsable, c'est moi qui suis violente, et c'est de moi qu'il faut se protéger. Ça serait pas exactement l'inverse par hasard ? C'est exactement l'inverse. C'est moi qui n'ai pas été protégée, c'est moi à qui on ferme la porte au nez, alors qu'il est important, pas pour moi, pour nous tous, de savoir, de voir. C'est pas tout de savoir qu'il y a eu des incestes commis et des pourcentages et que c'est trois élèves sur une classe. Non, ce qui est important, c'est de voir ce que c'est.
Par la suite, on verra Christine Angot avec sa propre mère, avec sa fille Léonore aussi, mais également avec Claude, le père de Léonore, avec lequel elle revient sur un épisode déjà raconté dans Le Voyage dans l'Est. Lorsqu'elle est jeune adulte, après s'être d'abord éloignée de son père, Christine Angot renoue avec lui. Un choix qui peut sembler incompréhensible, mais qu'elle explique très bien dans son œuvre. Son père la viole de nouveau, comme si l'emprise d'antan n'avait mis qu'une seconde à se remettre en place. Christine Angot raconte une scène terrible parmi les scènes terribles. Un soir, alors qu'elle subit un viol, Claude, son mari, se trouve à l'étage du dessous. Il entend des grincements au-dessus de lui, le genre de grincements qui ne trompent pas. Et bien qu'il sache que, juste au-dessus de sa tête, Pierre Angot est en train de violer une nouvelle fois Christine, Claude n'intervient pas. Dans Une famille, cela débouche sur un face-à-face entre Christine Angot et son désormais ex-mari, une conversation à bâton rompu qui crée de très fortes émotions. Je l'évoquais à propos de son passage chez Ardisson, mais c'est en fait vrai partout et tout le temps. Aussi entourée puisse-t-elle être, on a l'impression d'une Christine Angot seule, désespérément seule, abandonnée tour à tour par chacun de ses soutiens potentiels. Il y a aussi ceux dont elle ne parle pas dans le film, comme Marc, un ami de son père, auquel elle se confie, qui lui promet qu'il va agir, et qui finit par se retourner contre elle, non seulement en prenant le parti du père, mais aussi en l'agressant sexuellement. Cette sensation de solitude est abominable. Lorsque Christine Angot écrit ou lorsqu'elle réalise, on a l'impression que c'est aussi et surtout pour briser cette solitude, et pour que quelqu'un lui dise enfin ces simples mots « Je suis désolé de ce qui t'est arrivé ». Ces mots, ce sont Léonore, sa fille, qui les prononcera, la seule qui n'était pas née à l'époque des faits, et qui n'a donc été ni témoin, ni complice. Léonore, c'est la seule avec qui le dialogue est apaisé. Dans tous ses autres échanges, Christine Angot est en colère. Une colère mille fois légitime, mais qui contribue à transformer chaque conversation en un dialogue de sourds, que ses interlocuteurs et interlocutrices se montrent conciliants ou pas. C'est ce qui rend Une famille aussi intense et aussi épuisant à la fois, à la manière de ce que doit vivre Christine Angot depuis son adolescence, et à l'image de la façon dont elle décrit les faits dans plusieurs de ses livres. Il n'y a pas de temps mort, pas de respiration, chaque mot est sujet à contradiction, à remise en cause, à réexploration. C'est ce qui crée aussi un vrai sentiment d'inconfort chez nous, spectateurs et spectatrices, lecteurs et lectrices. Soudain, on peut vraiment prendre conscience d'à quel point ce calvaire ne s'arrête jamais. Souvent dézingué par une partie de la critique littéraire, du Masque et la Plume à Éric Nolot, Christine Angot a fait l'objet de plusieurs reproches récurrents. Certains ont affirmé qu'elle avait tout inventé pour faire parler d'elle, et d'autres se sont vautrés dans la culture du viol et le slut-shaming en insinuant qu'elle l'avait bien cherché et qu'il était indécent de rabâcher les mêmes motifs, encore et encore, livre après livre. Déjà, ces gens-là ont bien mal lu Christine Angot. Chacun de ses livres est différent, y compris ceux dont le sujet principal est l'inceste. Des tas d'auteurs et d'autrices sont mus par des obsessions, des motifs qui traversent leurs œuvres, des personnages qui reviennent, parfois sous le même nom et parfois pas. Reproche-t-on à Jean-Paul Dubois de toujours parler de dentiste et de tondeuse à gazon, ou à John Irving d'ours et de lutte gréco-romaine? Non. En revanche, certains reprochent à Christine Angot d'avoir consacré un certain nombre de livres à l'inceste. Alors qu'en réalité, l'exploit, c'est qu'elle ait réussi à écrire sur d'autres sujets. On le comprend justement en lisant L'inceste, Le voyage dans l'Est ou encore Une semaine de vacances. Pour elle qui a subi ça, il n'est plus possible de vivre sans. Il y a des images qui la hantent et qui la hanteront jusqu'à la fin de ses jours. Il y a des questions auxquelles elle n'obtiendra jamais de réponse. Il y a le sentiment d'avoir été privée de sa jeunesse, de son innocence, de sa sexualité. Ce sont des choses dont il semble bien difficile de faire table rase. Écoutez-la en parler à Augustin Trapenard pour La Grande Librairie.
Moi, je me suis rendu compte que dans ma vie de tous les jours, il y a toujours au moins un moment, le jour, la nuit. Ça peut être en descendant l'escalier de chez moi, ça peut être en rangeant des affaires. Enfin, quand je ne suis pas vraiment occupée à quelque chose de bien précis, où tout d'un coup, je me dis « Mais t'as pas vécu ça ?» Je me dis « Mais c'est pas vrai que t'as vécu ça !» Et c'est lamentable.
Christine Angot explore plusieurs styles, parfois au sein d'un même livre, du récit clinique au journal, en passant par la narration, aux allures plus classiques et romanesques. D'ailleurs, dans son film, l'écrivaine dit ceci, je cite
« J'en ai marre de parler de ça. J'en ai marre de parler de l'inceste. J'en ai marre que mon travail soit envahi par ça. J'en ai marre de m'endormir en y pensant. Et de me lever en me demandant ce que je vais pouvoir écrire. »
Autre extrait de l'interview de Christine Angot sur France Inter.
Et déjà, il y a 30 ans, votre ancien mari vous disait « Christine, mais pourquoi tu figes les choses? Pourquoi tu n'avances pas ?» Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce film, vous pensez être allé au bout de ce chemin, avoir peut-être tout dit?
Est-ce qu'il y a un bout, vous pensez?
Je ne sais pas, je vous pose la
question. C'est toute la question.
Je vous pose la question de la manière la plus ouverte qui soit.
Il faut dire ce qu'on sait. Voilà. Il faut écrire ce qu'on sait, il faut écrire ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et c'est comme ça. Et il y a évidemment qu'il y a toujours un désir de dire bon bah quand est-ce que ça s'arrête ou voilà. Mais bien sûr que c'est lourd. Mais en même temps, je sais des choses là-dessus.
Je ne sais pas si je dois vous recommander de lire les livres de Christine Angot. Disons que je vous les recommande si vous voulez vous confronter à ce sujet et le regarder droit dans les yeux. Bien entendu, tout est relatif, mais je crois qu'une famille est nettement plus accessible parce qu'il est moins frontal, parce que les viols n'y sont qu'évoqués au lieu d'être décrits en détail, et parce que Pierre Angot n'y apparaît qu'en photo. Ici, on est dans l'après, un après au sein duquel on se retourne sur le passé, mais moins sur les actes en question que sur ce qu'il faudrait faire pour les réparer, ou sur ce qu'il aurait fallu faire. Car sur l'ensemble du film, plane cette impression terrible d'un combat possiblement vain, que Christine Angot continue à mener parce qu'elle n'a pas le choix, mais pour lequel il est sans doute trop tard. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining@slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja, et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Delahaye. À dans 15 jours!